pouvoir érythréen considère que le peuple érythréen est son armée. D'ailleurs, ça fait voir qui le président a fait ses classes en Chine durant la révolution culturelle dans les années 60. C'est un maoïste assumé. C'est un homme qui n'a l'air de rien. C'est une dictature brutale, mais extrêmement discrète. Et la gestion du gouvernement se déroule exactement comme les mafias siciliennes, c'est-à-dire sans écrit, uniquement avec des ordres oraux, dans le partage du pouvoir parfois mystérieux, des décisions arbitraires prises uniquement par le chef. Les opérations de police, le secret, les règlements de compte et le système mafieux existaient déjà pendant la guérilla. Ça n'empêche pas que le mouvement guérillero érythréen est particulièrement héroïque. Il a combattu pendant près de 30 ans contre l'occupation éthiopienne d'une armée qui était la première armée d'Afrique, qui n'était soutenue, cette guérilla, par quasiment personne. Tout a commencé là. Isaias Afwerki, envers et contre tout, lui et ses amis ont mené une guérilla que tout le monde estimait perdue. Ils étaient seuls et mal armés. Ils ont dû s'organiser et organiser une Érythrée parallèle dans les territoires qui étaient libérés par la guérilla. C'était extrêmement éprouvant, extrêmement dur et extrêmement héroïque. Donc l'endurcissement du régime date de cette époque-là. Aussi leur conscience et leur mégalomanie, d'une certaine manière, où ils considèrent qu'ils incarnent la nation et la nation héroïque, et que le meilleur du peuple érythréen, ce sont eux. Et depuis 2001, donc, on assiste à la lente dégradation et à l'isolation d'un régime de plus en plus paranoïaque et de plus en plus brutal envers les siens et envers ses voisins, qui se recroquevillent sur l'idée qu'ils mènent, encore une fois, une nouvelle guerre de libération contre des puissances occultes et prédatrices, avec l'Éthiopie, les États-Unis, la CIA et que sais-je encore.
Parmi les drames de la migration à Lampedusa, il y a souvent des Érythréens. Qu'est-ce qui pousse véritablement ces gens à quitter leur pays pour parfois trouver la mort dans le désert ou en mer Méditerranée ?
Les Érythréens fuient évidemment la dictature érythréenne, l'extrême dureté des conditions de vie là-bas. C'est un pays qui est frappé par des sanctions internationales dont l'économie s'effrite, s'effondre. Il y a des pénuries graves. Mais au-delà de tout ça, il y a le système qui, depuis une dizaine d'années, a été mis en place, réactivé par Isaias Afwerki et son gouvernement, qui est un système de service national obligatoire pour tous les Érythréens à partir de l'âge de 17 ans, sans démobilisation, et avec du travail forcé tout au long de la vie pour les citoyens érythréens. Donc ça veut dire qu'ils confisquent le destin des jeunes érythréens dès l'instant où ils ont fini leurs études secondaires. Ils sont à la disposition de l'armée, ils sont des soldats. Les casernes, autant vous dire que les conditions de vie sont extrêmement éprouvantes, avec des sévices réguliers, de la torture, des incarcérations arbitraires, parfois des morts sous la torture, pour des jeunes enfants qui n'ont rien demandé, qui ont juste demandé à vivre correctement, normalement. Et une fois qu'ils ont fait 18 mois de classe dans des camps pénitentiaires assez brutaux à la frontière du Soudan, notamment la grande cité militaire de Sawa, ils sont à la disposition du ministère de la Défense, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir son métier, même si on n'est pas obligé de porter l'uniforme. On est envoyé au gré des envies et des caprices de ces officiers, construire une route, travailler pour les grandes industries et les grands chantiers du président, quasiment sans salaire, pour un salaire de misère quand il est payé, avec uniquement une dizaine de jours de permission par an. On est l'esclave de la nation. La plupart des jeunes Érythréens aujourd'hui vivent cette expérience, cette situation imposée comme une punition et la confiscation de leur vie. Donc beaucoup, c'est-à-dire que même l'ONU comptabilise entre 3000 et 4000 passages clandestins de la frontière par mois entre l'Éthiopie et le Soudan. Ça veut dire que 3000 à 4000 jeunes Érythréens, tous les mois, décident qu'ils préfèrent fuir le pays à pied, prendre les risques que l'on sait, vivre un autre calvaire plutôt que de rester un esclave et un petit pion docile d'un régime paranoïaque et extrêmement brutal.
Et après la fuite considérée comme une désertion militaire ?
Il y a ceux qui restent dans les camps, au Soudan ou en Éthiopie, dans des conditions de pauvreté terribles, sans beaucoup d'éducation, sans beaucoup de débouchés pour l'avenir. Et puis il y a ceux qui prennent leur courage à deux mains et qui traversent pour essayer de rejoindre soit l'Europe, soit Israël. Et comme ils disent eux-mêmes quand on les rencontre sur la route, ils cherchent la première démocratie sur le chemin, c'est-à-dire qu'ils veulent fuir l'Afrique et les démons africains qui les poursuivent, et la brutalité de la vie, soit dans les camps, soit dans les dictatures, soit sur les routes, soit à la merci des mafias et des trafiquants qui sont souvent des personnalités extrêmement racistes et brutales et cupides. Donc ils prennent la route et soit ils vont tenter leur chance vers Israël, ou alors ils vont en Libye, où là ils sont exploités par la bourgeoisie libyenne qui les utilise comme femmes de ménage, comme esclaves, le temps qu'ils puissent payer leur passage sur un bateau. bateau qui va les amener, avec un peu de chance, jusqu'au rivage européen et avec beaucoup moins de chance dans le fond de la mer Méditerranée.
Donc aujourd'hui, la quasi-totalité de l'économie érythréenne est du travail forcé.
Oui, l'essentiel de la main-d'œuvre, en tout cas en Érythrée, c'est évidemment ce qu'on appelle les Warsaïkéalo, c'est-à-dire les conscrits du service national. Ce sont eux qui, pour la plupart, font tourner l'économie. Il n'y a quasiment pas d'économie privée en Érythrée. La plupart des grosses compagnies de construction, BTP ou autres, sont des compagnies qui sont non seulement publiques, mais en plus dirigées par des proches, des généraux qui dirigent le pays, ou d'Isaias Afewerki, le président et son entourage. Donc tout est parfaitement contrôlé, tenu, surveillé. La police est omniprésente, les mouchards sont partout. Et pour les dissidents ou ceux qui s'écartent un peu de la ligne du parti, il y a un système pénitentiaire absolument terrifiant, d'environ 314 centres de détention, plus ou moins secrets, qui sont gérés par l'armée. Ce sont des centres de détention sans cours, sans tribunaux, sans avocats, sans visite de la famille. On vous jette dans les oubliettes avec d'autres. Et puis, vous sortez quand vous sortez. Et si vous sortez, la plupart des réformistes et des journalistes incarcérés en 2001 ont disparu, je le rappelle. On ne sait pas s'ils sont en prison ou s'ils sont enterrés quelque part dans un trou de poussière dans les montagnes. Beaucoup d'Érythréens tombent dans ces oubliettes et souffrent atrocement de voir des membres de leur famille disparaître du jour au lendemain simplement parce qu'ils n'avaient pas leur papier ou qu'ils ont dit un mot de travers devant un mouchard. Donc voilà, la fuite est la seule solution un peu réaliste. Et puis effectivement, l'économie érythréenne, comme la société érythréenne d'une manière générale, est embrigadée, comme l'était le Cambodge des Khmers Rouges, comme a été à un moment aussi le Nord-Vietnam dirigé par Ho Chi Minh. Tout ça, c'est la même école qui considère que la nation est en armes de manière perpétuelle et que la nation en armes, c'est l'embrigadement de la population.
Et malgré cet embrigadement, comment certaines personnes parviennent à s'enfuir ?
De manière très rudimentaire, c'est-à-dire qu'il y a des passeurs. Alors il y a deux solutions, hein. Soit vous tombez sur un officier de l'armée corrompu qui vous fait passer dans le coffre de sa voiture contre 3 000 ou 5 000 dollars, ce qui est une somme considérable. Le salaire moyen en Érythrée doit avoisiner environ 50 dollars. Contre plusieurs milliers de dollars, vous pouvez passer avec la complicité d'officiers de l'armée qui s'engraissent et qui participent à un circuit de financement occulte du régime, puisque une enquête de l'ONU a révélé que le général Mandjous, qui est toujours le commandant des gardes frontières, est non seulement un trafiquant d'armes connu sur le marché international, mais également le bénéficiaire d'une partie des commissions des trafiquants d'êtres humains. Ou alors, il y a la méthode rudimentaire de trouver quelqu'un, un passeur qui connaît les routes, et vous traversez à pied. Ça va entre 3 jours et une dizaine de jours de trek à travers les djebels ou les canyons de l'Éthiopie ou à travers le désert étouffant et glacial la nuit vers le Soudan. Vous passez à pied en évitant les patrouilles qui ont ordre de tirer à vue. Et si vous vous faites attraper, évidemment, vous êtes envoyé immédiatement dans l'un des centres pénitentiaires dont vous sortez qu'après plusieurs années de sévices et de torture et de travail forcé. Les Érythréens, de toute façon, sont prêts à payer le prix de cette odyssée terrifiante parce que, de toute façon, rester en Érythrée signifie abdiquer sa vie, abandonner toute liberté et toute maîtrise de son destin.
Est-ce que le régime érythréen utilise les drames de la migration comme Lampedusa, par exemple, pour tenter de décourager les candidats au départ dans une forme de propagande ?
Alors le régime érythréen a commencé par masquer toute la question de l'émigration massive des jeunes. Et puis depuis quelques années, le président, dans chaque interview, dit que la fuite vers l'étranger est une stratégie politique de la CIA ou des États-Unis ou des forces occultes encore plus mystérieuses pour vider l'Érythrée de sa jeunesse, que c'est un acte de guerre qui est organisé depuis l'étranger et que, en gros, ceux qui fuient sont des traîtres ou des naïfs petits pions de l'impérialisme américain. Isaias Afewerki et ses amis sont convaincus que c'est bien le cas. Ils accusent les ONG, les militants des associations d'aide aux migrants ou des journalistes comme moi, par exemple, d'être des agents de la CIA, simplement parce que quand les Érythréens fuient, on leur apporte du secours. Donc toute leur politique est axée sur la lutte contre le complot, la conspiration intérieure qui voudrait détruire la jeune et courageuse Érythrée qui lutte pour sa libération.